Et donc maintenant, nous allons parler avec Laurent Joetz, qui est donc professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui avait participé à l'émission Libre à vous consacrée au logiciel libre, le monde éducatif, le collège, émission du 4 février 2019, disponible donc sur causecommune.fm et sur april.org, les podcasts. Donc Laurent, tu es avec nous?
Bah oui, bonjour.
Bonjour Laurent, je rappelle aux personnes qui veulent participer à notre conversation, vous pouvez nous rejoindre sur le salon web dédié à l'émission, sur le site causecommune.fm, bouton de chat, salon, dièse, libre à vous. Déjà Laurent, comment ça va?
Bah ça va bien, ça a été une période un peu compliquée en tant que référent du numérique de l'établissement, après comme tous les enseignants aussi pour préparer les cours et puis prendre en charge les élèves à distance, c'est pas simple, hein. C'est assez fatigant, mais super riche en fait.
D'accord, alors justement, on va en parler un petit peu, un peu de ce retour d'expérience, parce qu'effectivement, juste avant, on avait Engie de Framasoft qui nous parlait un petit peu comment ils avaient vécu ça de leur côté. Donc, il était intéressant d'avoir aussi un retour d'expérience côté enseignement. Et le premier point que tu souhaitais aborder, c'est l'importance des outils décentralisés déjà en place.
Bah, en fait, dans notre établissement, nous, cette histoire de chaton dont on entend parler depuis longtemps avec Framasoft, et puis cette demande qu'on a vue apparaître de Framasoft qui dit bah, vous êtes gentil, vous avez bien testé nos outils, mais maintenant faut vous débrouiller tout seul sans nous. Ça fait un petit moment déjà que dans mon établissement, on l'a mis en place. Alors j'ai pas fait ça tout seul, hein, et puis j'ai bien conscience que je suis pas un établissement qui est forcément représentatif de tous les établissements de France. Mais donc on est une communauté de libristes qui avons mis en place ça dans nos établissements déjà depuis un moment, notamment en utilisant des serveurs pédagogiques Samba Edu qui sont associés à des serveurs Nextcloud qui permettent aux élèves d'accéder de chez eux au partage du réseau, même déjà, on le faisait déjà en temps normal, ça fait plusieurs années. Donc en fait, ce type d'usage-là, accéder de chez soi aux documents qui sont stockés au lycée, nos élèves, ils savaient faire. Donc bah, ça nous a, on a du coup pour cette partie-là été assez indépendant, notamment de Framasoft. Et puis comme on l'a vu aussi, les ENT, les espaces numériques de travail qui sont mis à notre disposition par les conseils généraux, les conseils régionaux, etc. Oui, c'est ça, hein, département pour les collèges, région pour les
Pour les
lycées.
lycées.
Bah, on a bien vu que bah, pour tenir le choc face à l'afflux de connexion des premiers jours de confinement, il a fallu qu'on se débrouille sans quoi. Et on était bien content d'avoir notre Nextcloud à nous.
Alors, Nextcloud, on en a parlé dans une émission de Libre à vous il y a quelques semaines. Hein, je renvoie sur le site de la radio, sur le site de l'April. Hein. C'est un service, un logiciel libre qui permet de mettre en place un service de partage de fichiers, d'agenda, de photos, d'outils collaboratifs. Donc voilà, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus. Et donc là, ce que tu dis, en fait, quelque part, et tu as précisé que tu n'es pas forcément représentatif de l'ensemble des établissements, c'est que vous étiez, entre guillemets, prêt parce que vous aviez déjà des outils qui vous permettaient de travailler finalement à distance et d'avoir un accès décentralisé quelque part à vos outils pour vous en tant qu'enseignant et pour vos élèves, c'est ça?
Exactement, c'est ça. Et donc on savait qu'on avait déjà ça en place, donc on n'était pas obligé d'avoir besoin de se connecter à l'ENT pour faire du partage de documents. Et puis dès le vendredi soir où on a appris qu'on allait être confiné, qu'on ne retournerait pas dans les établissements, on a très très vite réfléchi avec d'autres collègues et d'autres établissements aux alentours comment on allait pouvoir mettre en place un moyen de communiquer avec les élèves pour faire cours, faire de la visio, hein, en quelque sorte. Donc on connaissait Jitsi. On avait bien conscience que si on allait tous taper dans Framatalk, ça marcherait pas. Et donc on a cherché des alternatives. Alors notre ENT en Île-de-France, nous, était en train de mettre en place aussi dans l'urgence un outil qui s'appelle BigBlueButton intégré à l'ENT. Mais on était conscient aussi que bah, la connexion à l'ENT, elle serait compliquée les premiers jours. Donc on s'est dit pourquoi on prendrait pas nous en charge l'installation de ce logiciel libre BigBlueButton et le mettre sur notre infra d'établissement. Donc je répète hein, que je suis pas forcément représentatif, mais dans mon établissement, on a un gros serveur avec des machines virtuelles Proxmox, on a une liaison fibre 50 mégas et on avait un bloc d'IP dont une IP libre et donc on s'est monté notre serveur de visio à l'établissement, spécifique à l'établissement, en urgence dans le week-end en fait.
Ce que tu appelles IP, c'est ce qui permet de se connecter à un serveur via une adresse, en fait.
Voilà, parce que l'installation de BigBlueButton elle est un petit peu technique si on ne dispose
Voilà.
pas d'une IP publique sur Internet. Voilà.
D'accord. Juste avant que tu continues sur BigBlueButton et que tu nous en parles un petit peu, il y a une question sur le salon web. Sur le cloud de ce lycée, y a-t-il eu une grosse augmentation de la consommation pendant le confinement? Et seconde question, comment les utilisateurs et utilisatrices sont-ils connectés sur le cloud?
Alors, pour répondre à la première question, en fait, on s'est amusé à sortir les graphes de la première semaine et étonnamment, on a donc des courbes avec le flux entrant et le flux sortant, le débit entrant, le débit sortant. Et ce qui est très, très rigolo, c'est qu'en fait, les courbes se sont inversées. On n'a pas du tout saturé sur notre lien fibre, mais tout ce qui était en entrée les semaines précédentes est passé en fait à peu près en sortie en fait c'est juste symétrique quoi, c'est vraiment étonnant. Et puis pour répondre à la question comment il s'identifie sur le Nextcloud, bah ça c'est la force du projet Samba Edu. On a donc un serveur qui gère un annuaire et les élèves sont identifiés avec leur identifiant habituel qu'ils utilisent en classe. Et la force de ce projet Samba Edu, c'est aussi de permettre d'avoir le même identifiant que sur le NT. La synchro est totale entre le serveur qui est dans l'établissement, le NT qu'ils utilisent qui est extérieur. Et puis donc tous les outils qu'on va mettre en place à côté, que ce soit le Nextcloud qui permet d'accéder au partage, que ce soit l'outil de Visio BigBlueButton, c'est pareil, c'est interfacé sur le LDAP, et puis donc sur l'annuaire, et puis on a une fonctionnalité complètement ahurissante qui vient de sortir il y a quelques jours, c'est la possibilité pour les élèves d'accéder de chez eux dans un navigateur aux machines de l'établissement. En RDP, c'est-à-dire qu'en fait, ils se connectent sur le serveur Samba Edu et on a découvert et mis en place un outil qui est maintenu par le projet Apache qui s'appelle Guacamole. Et, toujours rigolo ces noms-là, ça me fait marrer. Et qui permet donc dans un navigateur de voir ce que verrait l'élève sur l'écran de son ordinateur en classe. Et c'est excessivement fluide. On fait tourner des applications comme ceux qui enseignent peut-être en SI connaissent.
Tu as dit SI, ça veut dire quoi?
C'est section d'ingénieur.
Non, SI, ah, section d'ingénieur, d'accord.
Enfin bon, bref, les grands lycéens, on va dire.
D'accord.
Moi, je suis plutôt collège, alors bon. Et donc, ce qui est assez impressionnant, c'est que c'est complètement fluide. C'est bluffant. Bluffant. Et donc, le prof, il va diffuser l'écran de son ordi du lycée dans le visio, dans l'outil de visio du lycée aux élèves qui sont chez eux, mais qui sont connectés avec les identifiants du lycée ou de l'ENT.
D'accord. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est effectivement d'un point de vue usage, mais ça montre aussi l'hyperactivité finalement de ce projet dont tu parles d'accès serveur qui est donc Samba Edu. Hein, dont vous trouverez les références. Alors c'est sambaedu.org hein, si vous cherchez sur c'est Internet. Ça. Ce projet est vraiment hyperactif parce que finalement, bah, c'était rajouté récemment cette fonctionnalité.
Exactement. Alors, bah, en fait, la force du projet Samba Edu, c'est que c'est fait par des profs pour des profs. Donc on est exactement, on répond exactement aux besoins des enseignants. Et on peut pas faire plus direct que du producteur au consommateur, en fait. Enfin, du demandeur au codeur. On peut pas faire plus direct. Alors, ça nécessite certes des compétences. Tout le monde les a pas, mais tout le monde peut participer rien qu'en remontant des bugs, en faisant des demandes sur le GitLab, etc. Donc, c'est assez, disons j'ai presque envie de dire qu'on va profiter de cette période un petit peu compliquée pour faire connaître toutes les possibilités qui étaient sous-jacentes au projet depuis très longtemps, mais pour lesquelles les différents personnes qui les décideurs n'étaient pas conscients de ce que ça pouvait apporter. Voilà. Et là, c'est là où on voit une force vraiment exceptionnelle de la localisation à la fois des compétences et des infrastructures dans les établissements scolaires. C'est qu'on voit bien, hein, les ENT, ok, on a des très grosses compétences, mais les serveurs sont pas dans les établissements. Donc tout le monde passe par le même tuyau. Là, dans un établissement, on a quoi, aller au maximum 1000, 2000, 2000 élèves, 2500 élèves. 2500 élèves sur une fibre 100 mégas, c'est rien du tout.
D'accord, c'est intéressant d'avoir effectivement la localisation des serveurs, des compétences et finalement d'être préparé. J'ai juste précisé, parce qu'on nous fait remarquer sur le salon que tu n'es pas forcément représentatif, comme on l'a dit tout à l'heure. Lors de l'émission Antenne Libre qu'on a fait le 19 mars 2020, donc les podcasts sont disponibles sur april.org et sur causecommune.fm, nous avions notamment Vincent-Xavier Jumel, donc, qui lui est enseignant en lycée en Seine-Saint-Denis, dont les conditions ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, je renvoie les personnes à l'écoute de cette antenne libre qui avait duré 2 heures, où justement, lui avait expliqué les problèmes qu'il pouvait avoir et comment ils faisaient en mode confinement. C'était au tout début du confinement. On va revenir sur BigBlueButton pour que tu nous expliques un petit peu à quoi sert cet outil, en fait. Qu'est-ce qu'il a de, finalement, de magique, donc BigBlueButton?
Bah, en fait, c'est un équivalent assez étonnamment ressemblant de l'outil qui est mis en place par le CNED, c'est-à-dire que on fait de la classe virtuelle. Alors c'est comme Jitsi, sauf qu'il y a des fonctionnalités un peu en plus. Ça tient bien la charge quand on est vraiment très nombreux. Hein. On a fait notre AG d'association à 40 dans un salon et ça tient sans problème la charge. Il y a des systèmes de vote, on peut lever la main, etc. On peut définir quelqu'un comme présentateur qui va passer un diaporama, par exemple, que tout le monde va pouvoir visualiser en même temps. On peut partager des vidéos, tout le monde va voir en même temps. Et puis, on peut partager un écran, une fenêtre de son écran, etc. Et puis, on peut donner ces droits-là aussi aux autres utilisateurs. Alors, Jitsi, qui sera présenté tout à l'heure, peut sans doute faire beaucoup de ces choses-là. Mais voilà, on est parti sur BigBlueButton et puis ça marche vraiment très bien. On est assez bluffé par les performances. Pour revenir un petit peu sur le commentaire qui a été évoqué juste avant par Vincent-Xavier Jumel, c'est, je crois, ça j'en suis très clairement conscient. Hein, nous, dans notre établissement, je suis en plus dans un établissement assez spécifique puisque je suis dans un lycée REA qui accueille des élèves porteurs de handicap moteur pour certains et donc on a énormément d'usages informatiques autant dans l'établissement que les élèves à la maison. Et ça, clairement, c'est pas le cas partout. Et on voit quand même qu'on a quelques élèves que, avec cette histoire de visio et de confinement, qu'on a perdu. Ceux qui n'ont qu'un smartphone, par exemple, c'est très compliqué. Ceux qui ont un ordinateur à la maison, mais où ils sont cinq gamins plus la maman qui travaille en visio, etc. Eh ben, faut trouver les créneaux et c'est pas toujours possible. Et on en est tout à fait conscient. Ça, c'est un vrai écueil et c'est pour ça aussi que je participe, moi, à titre personnel, à des install parties organisées à la Villette, notamment par l'association de Parinux, hein, qui organise les premiers samedis, et je vois bien que c'est super important aussi de faire...
Tu te rappelles ce qu'est une install party, s'il te plaît?
Une install party, en fait, on vient avec son ordi qui marche plus, puis on part avec un ordinateur qui marche.
Bon, on reçoit de l'aide pour se faire installer un système libre, soit sur l'ordinateur, voilà, soit sur le téléphone, on va dire.
Voilà, et on voit bien qu'il y a une vraie fracture numérique au niveau familial, en fait. Hein. Il y a des familles avec chaque enfant a son ordi dans sa chambre et il y a des familles, il est partagé où il n'y a même pas d'ordi, quoi.
Et les collègues, tes collègues, ils sont aussi aguerris que toi en termes de paramétrage de salon, tout ça, ou ils ont plus de mal?
La première semaine, même dès le premier week-end de mémoire, hein, on a fait des visios entre profs pour faire de la formation à la visio. Alors c'est assez rigolo parce que quand on fait ça, on a l'écran qui se remplit à l'infini. Mais voilà, je les ai formés assez rapidement. C'est quelque chose que le référent numérique en établissement, il a l'habitude de faire. En général, on fait ça après 16h30 dans une salle quand tous les élèves sont partis. Puis on a deux, trois collègues qui sont intéressés par le sujet. Et puis les autres, ils ont leur vie à côté. Et on comprend très bien qu'ils ne viennent pas forcément. En travail à distance et avec le besoin qui se faisait sentir, on était excessivement nombreux. Après, tout le monde est clairement pas au même niveau d'aisance avec l'outil, c'est tout à fait compréhensible et on peut pas exiger non plus à un enseignant qui a des enfants en bas âge de se connecter à heure fixe pour faire de la visio avec ses élèves depuis son domicile. C'est pas possible. Il y a des cas où on peut pas. Ça, c'est clair.
Oui, et en plus, je crois que tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais l'expérience montre que la visio, c'est quand même épuisant aussi. Il y a un côté quand même qui est, de point de vue cognitif, qui est beaucoup plus fatigant en fait qu'avec des cours en présentiel classique.
C'est épuisant. C'est épuisant parce que tenir une classe. Hein, après, tout dépend de la classe, hein, des élèves. Ça dépend aussi de comment on est prof. Hein, on est tous différents par rapport à ça, mais on fait pas la discipline de la même manière, et puis le regard au gamin qui est peut-être un peu déconcentré, des fois ça le recadre tout de suite, c'est des choses qui s'expliquent pas forcément, qu'on acquiert avec l'expérience, et puis c'est complètement différent en visio, ça c'est très clair, hein, alors il faut relancer très très régulièrement à l'oral déjà, hein, parce que on met pas forcément la webcam. Au début ils mettaient leur webcam, les élèves, un petit peu, et puis au fur et à mesure que la période avance, on sent qu'ils sont en pyjama en fait le matin. éteint. Donc ils mettent plus la webcam. Voilà. Puis moi, alors moi, par contre, je m'arrange aussi toujours pour la mettre pour qu'ils me voient. Je pense que c'est important de garder un contact. Et puis quelque chose de rigolo aussi, c'est qu'à la fin de mes cours en visio, je leur laisse toujours 5 minutes. Je laisse le salon ouvert. Moi, je coupe mon micro, je coupe ma caméra, et puis entre eux, ils échangent. C'est important aussi ces moments-là.
Ah oui, tu les laisses entre eux, ça c'est bien.
Ouais.
Ça.
À tel point que notre CPE, elle va essayer de mettre en place d'ici, bah, pour la rentrée, parce que là, en région parisienne, on est en vacances scolaires. Donc dans 15 jours, on va essayer de faire des récréations en visio qui sont avec un adulte hein, présent dans le salon, CPE ou un surveillant, et puis permettre aux élèves de s'échanger un peu, surtout en essayant qu'ils évitent les Discord, WhatsApp, etc. dans la mesure du possible, quoi. Et ça, c'est un vrai plus hein, qu'on a avec Samba Edu, c'est que les élèves, ils sont identifiés forcément hein, en passant par un serveur de visio qui est lié au compte ENT, alors que bah, quand on voit un petit peu ce qui se passe dans l'outil du CNED, bah, il suffit d'aller lire un petit peu.
Alors justement, je vais pas mettre te couper parce que je sais pas, tu dois être sur le salon en même temps parce qu'il y a.
Alors
sur
le non, salon web, pas le salon en même temps, non.
Eh ben, il y a quelqu'un qui pose la question sur le salon web. Y a-t-il eu des intrusions dans la solution de visio utilisée par Laurent, donc qui est Big Blue Button, comme on en a entendu parler pour la solution du CLED, ce qui est Bébé Collab. Donc c'est ce que tu es en train de parler en fait.
Exactement. Alors Bébé Collab, en fait, le prof il va diffuser, il va générer un lien pour sa classe et puis il va la diffuser par tout moyen possible. Alors ça peut être par mail perso, ça peut être sur un groupe WhatsApp, j'en sais rien, en fonction de comment il communique avec ses élèves, puisqu'on a tous été contraints de faire des trucs pas franchement RGPD compliantes au début, hein, notamment l'extraction des adresses mail des élèves depuis l'ENT pour pouvoir prendre contact avec eux puisque l'ENT marchait pas. Donc voilà. Et après, bah, n'importe quel gamin va poster ce lien sur Twitter ou sur n'importe quel réseau ouvert et n'importe qui peut rentrer dans le salon. Alors j'ai, à ma connaissance, hein, Bébé Collab va mettre en place très très rapidement un système de salle d'attente où en fait le prof pourra aller piocher ses élèves dans la salle d'attente pour les mettre dans la classe, que n'importe qui puisse pas s'introduire. Ben nous, on n'a pas ça avec l'outil de visio Big Blue Button parce que justement, il est interfacé avec le LDAP en fait, avec l'annuaire de notre serveur.
D'accord. Bah écoute, c'est super. Alors, le temps file et je vois que Émile Leivov nous a rejoint également sur le Jitsi. En dernière question, j'ai une question de Marie-Odile qui me disait, donc la presse locale a montré des enseignants de technologie de collège fabriquant des pièces avec des imprimantes 3D pour les objets sanitaires utilisés actuellement. Et elle dit, n'est-ce pas là une belle reconnaissance de la discipline, donc la technologie, de la fabrication qui doit s'y pratiquer? Et elle pose la question, est-ce que les décideurs politiques comprendront un jour la nécessité de cette discipline, travail en groupe, matériel? Est-ce que tu es optimiste de ce point de vue-là?
Alors oui, moi je suis assez optimiste. Je suis un peu embêté parce que j'adorerais le faire. J'ai 2 imprimantes au lycée, mais mon établissement est fermé. En plus, j'habite assez loin de mon établissement. Je serais à côté, j'y serais, surtout que j'ai du stock de filaments, etc. J'ai vu tout ça passer. Mon problème, c'est le temps. En tout cas, mais c'est clair que si moi j'aurais adoré participer à ça, j'ai des copains hein, qui, notamment au Fab Lab de Mulhouse, qui se sont lancés dans des productions de masques assez industriels au Fab Lab. Je sais pas combien ils ont récupéré d'imprimantes et ils impriment des trucs de fou. Ouais, je pense que de toute façon, on est face à une situation tellement inhabituelle que on va voir plein d'initiatives comme ça qui, j'espère, vont faire réfléchir un petit peu les politiques. Hein, moi, je vais revenir un petit peu prêcher pour ma chapelle, mais ce qu'on arrive à faire avec le projet Samba Edu, on sait, nous, qu'on sait le faire depuis très longtemps, mais les politiques n'avaient pas encore compris la puissance de l'outil.
Bah écoute, comme dirait Marie-Odile, Laurent Jouette, ministre de l'Éducation, pour mettre en place, généraliser ça.
Non, moi, j'aime bien rester un petit peu dans l'ombre.
T'aimes bien faire des choses utiles.
C'est ça.
Bon, on va arrêter de troller là-dessus. En tout cas, je te remercie grandement. Et puis, n'hésite pas si tu as besoin, si tu as envie de refaire un retour d'expérience plus tard, n'hésite pas. Alors, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, Laurent est dans un cas un peu particulier, comme il l'a expliqué. Je renvoie aussi donc à l'antenne libre du 19 mars 2020 pour un retour d'expérience dans d'autres conditions, notamment à un lycée de Seine-Saint-Denis, que je connais bien, vu que je suis en Seine-Saint-Denis, donc avec notamment Vincent-Xavier Jumel.
Alors, Vincent-Xavier, je crois que j'échange avec lui régulièrement sur Mastodon.
Oui, tout à fait. Et tout à fait. Mais là, il n'est pas là. Il était dans l'antenne libre, en fait. C'est pas ça. Voilà. Donc, en tout cas, c'était Laurent Joetz, donc professeur de technologie en collège, référent numérique de l'établissement et qui était notamment intervenu dans l'émission Libre à vous, donc consacrée au logiciel libre et le monde éducatif, et notamment le collège, le 4 février 2020. Donc, podcast sur april.org et sur causecommune.fm. Mais écoute, Laurent, je te souhaite de passer une belle fin de journée.
Ben, c'est très gentil. Merci beaucoup aussi pour la visibilité qu'on peut donner à un projet comme Samba Edu dans ce type d'émission.
Ben merci Laurent, à bientôt.
À bientôt.